Vous avez entendu l'histoire de...
Miles Davis, John Coltrane, Stan Getz.
Comment ils vécurent, comment ils sont morts?
Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore?
Eh bien, écoutez Stop Chorus et...
On vous en racontera bien plus.
Donc nous voilà dans une nouvelle émission de Stop Chorus, donc pour la rentrée Principe Actif.
Bonjour, puis on va repartir en douceur.
Alors, on vous a concocté deux émissions sur les clubs de jazz parisiens. Alors, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des clubs de jazz, hein, mais bon, c'est là qu'il y en a quand même... une concentration un peu plus importante.
Et puis, ils ne sont pas très loin, en fait.
Voilà. Donc, vous pouvez y aller, pour ceux qui existent encore. Et puis, voilà. Alors, bien évidemment, on va pas parler de tous, puisque ça serait impossible. Hein. Il y en a...
Bah oui, entre ceux qui ont existé, puis ceux qui surgissent d'un seul coup, là, en bas.
Et donc, on a essayé de faire à la fois un petit historique, et puis aussi de trouver des enregistrements qui ont été faits dans les lieux mêmes dont on parle. Ce qui n'a pas toujours été facile.
Oui.
Mais
ça ne court pas les rues.
On a essayé de faire au mieux. Donc, les enregistrements ne sont parfois pas au top, mais bon, voilà.
Bah oui.
Alors, on a essayé.
Mais voilà. Ils sont authentiques dans l'ensemble.
Donc, par exemple, le thème que vous entendez en fond musical, qui s'appelle Polly Telly, c'est de Art Blakey and the Jazz Messenger. Et donc, c'est un live qui a été enregistré au Club Saint-Germain en 1958. Et donc, alors que le Paris fête sa liberté retrouvée, il y a une nouvelle musique venue d'outre-Atlantique qui va s'installer du côté de Saint-Germain-des-Prés, le jazz, qui va envahir les caves. Alors les G.I.s, ils importent le swing et le bebop, et les danseurs s'éclatent sur des rythmes endiablés, multipliant les passes acrobatiques. C'est vrai que c'est pas facile, le vrai rock acrobatique, et il faut avoir du muscle et du rythme. Nous allons donc vous parler de quelques-uns de ces lieux mythiques, du jazz parisien. Alors, durant l'entre-deux-guerres, Paris va vivre intensément au rythme du jazz et les quartiers privilégiés sont alors Pigalle, Montmartre et bien sûr les Champs-Élysées où les musiciens noirs américains et leurs homologues français ont investi les cabarets, les grands hôtels et les salles de restaurants. Alors donc, situé à quelques pas du rond-point des Champs-Élysées, on va trouver le Boeuf sur le Toit qui est tout d'abord connu sous le nom de Bar Gaïa. Il apparaît non seulement comme le premier lieu de jazz dans la capitale, mais également comme l'un des clubs les plus célèbres de l'époque. Alors, son nom viendrait d'un ballet de Darius Milhaud. Voilà. Et donc, le Boeuf sur le Toit va entrer du même coup dans l'histoire de la musique et surtout dans l'argot du jazz avec l'expression « faire un boeuf », hein, parce que les musiciens se retrouvaient là-bas le soir après leurs différents concerts.
Voilà, qui n'étaient pas forcément du même orchestre, mais qui avaient bien envie de jouer ensemble quand même.
Voilà.
Donc, ils se faisaient un petit plaisir comme ça en sortant le soir dans les boîtes, quoi.
Et alors, c'est Jean Wiener, un jeune pianiste de formation classique depuis peu conquis par le jazz, va y jouer presque tous les soirs du ragtime ou des offres de Bach, mais à la façon de Scott Joplin. Et bien sûr, il y a tout un tas de personnalités comme Jean Cocteau ou voir le prince de Galles qui s'essaie de temps à autre à quelques roulements de batterie. Alors d'autres célébrités sont devenues des habitués, comme les peintres Picasso, Marcel Duchamp, ou des musiciens comme Arthur Rubinstein, ou le compositeur Maurice Ravel. Du beau monde, quand même.
Ah, quand même, bah oui.
Oui. Alors, on va vous faire écouter un premier morceau, donc, qui s'appelle Charleston, de 1925, donc écrit par Jean Vianer et Clément Doucet, interprété par eux aussi, et donc qui jouait au Bœuf sur le toit.
C'est sympa cette interprétation de ce vieux standard de l'époque où on dansait le Charleston, hein, que tout le monde a. Enfin, à l'époque, tout le monde dansait le Charleston et les orchestres de Dixieland jouaient ça. Voilà. Donc là, c'est une version un peu plus douce et tout. Puis il faut dire qu'à l'époque, il y a presque 100 ans, quoi. Donc le jazz, on connaissait pas trop, les musiciens découvraient ça, donc ils essayaient de s'adapter le mieux possible, et voilà des gens qui avaient pas leurs oreilles dans leur poche. Alors... Jean Vienner s'est surtout fait remarquer par sa composition de Touchez pas au Grisby, qui jouait à l'harmonica d'une façon très, très sympa, quoi.
Voilà, il avait écrit plusieurs musiques de films. Donc, le Bœuf sur le toit deviendra, bien des années plus tard, un restaurant, mais a continué donc à jouer un rôle important dans l'histoire du jazz français. Et c'est dans ce club, d'ailleurs, que Django Reinhardt a débuté et qu'au lendemain de la guerre mondiale, Stéphane Grappelli a retrouvé son vieil ami guitariste, faisant renaître pour quelque temps le fameux quintet du Hot Club de France. Et donc là, on vous propose d'écouter bien Echo of France de 1946, donc avec Django Reinhardt et Stéphane Grappelli.
Et vous reconnaîtrez peut-être un morceau que vous connaissez. Eh bien, ça fait du bien d'entendre ça, cette merveilleuse composition de Rouget de Lille, qu'on appelle communément marseillaise. Et là, on voit que des sacrés musiciens comme ça, ils s'en emparent et ils en font un morceau de jazz. Et ça swing, et c'est beau. Bon, chapeau. Hein. Mais ça a été interdit, ce disque. Hein. Quand ils ont voulu faire paraître ça, tout de suite, la censure. Oh, mon Dieu, quelle horreur. On joue la Marseillaise en jazz. Puis maintenant, je vous conseille une version de Jean-Loup Longion, le trompettiste. Une version bossa de la Marseillaise. C'est merveilleux aussi.
Donc là, l'enregistrement qu'on entend n'a pas été fait donc au Bœuf sur le Toit. Hein. C'est un disque, un enregistrement en studio. Alors, petit rappel sur Django Reinhardt. Bon, on avait déjà fait une émission sur Django et Grappelli, mais bon. Alors, c'est un guitariste de jazz français qui est né en 1910, mort en 1953. Son style de jeu et de composition a été suivi d'adeptes, donnant naissance à un style de jazz à part entière, le jazz manouche. Il est encore aujourd'hui un des guitaristes les plus respectés et influents de l'histoire du jazz. Donc, pour un petit rappel, il avait été grièvement blessé dans l'incendie de sa roulotte. Et toute sa vie, donc, il va garder des séquelles de ses brûlures à la main gauche qui vont l'obliger à trouver une nouvelle technique et à jouer dans un style si particulier que les adeptes des générations suivantes pousse parfois l'idolâtrie jusqu'à s'entraver les doigts pour reproduire son infirmité, sa technique. Ça va. Mais c'est pas pour ça qu'il joue forcément aussi bien.
Il est considéré comme un des grands, parmi les musiciens, comme un génie. Hein, quand même. D'avoir apporté cette façon de jouer. C'est pas donné à tout le monde, quoi.
Donc, quant à Grappelli, donc c'est un contemporain de Django, puisqu'il est né en 1908. Alors, il est décédé en 1997, à Paris également. Donc, il est violoniste, pianiste, jazzman, donc italo-français. Il fait partie quand même des plus grands violonistes du jazz du XXe siècle. Il va donc créer le quintet du Hot Club de France avec Django Reinhardt.
Considéré par beaucoup d'amateurs comme le plus grand violoniste de jazz sur la planète, quoi. C'est faut dire que il a un swing, un son d'une beauté incroyable. C'était un sacré bonhomme aussi, Stéphane Grappelli. Puis lui, on a eu la chance de le voir assez souvent parce que Django est mort très tôt, quoi. Mais nous, il est passé à Évreux, là, Stéphane Grappelli.
Alors maintenant, on va faire un petit tour au caveau de la Huchette, qui est situé au 5 rue de la Huchette, dans le 5e arrondissement, au cœur du quartier latin. Alors l'endroit fut tout d'abord nommé caveau de la terreur, puis théâtre de la chanson, où les frères Jacques, Léo Ferré, Georges Brassens et bien d'autres firent leurs premiers pas. Et donc chaque soir, depuis 1946, un orchestre de jazz joue pour le plaisir de danser, ou d'écouter, bien évidemment. Alors, des grands noms du jazz se sont produits au caveau de la Huchette, comme Sidney Bechet, Marcel Azola, Art Blakey and the Jazz Messenger, Bill Coleman, Lionel Hampton, Guy Lafitte, Claude Luther, Zanini et bien d'autres. Et donc, là, je vous propose d'écouter un morceau connu, qui s'appelle Sing Sing Sing, et là il est interprété par Danny Doris et Didier Doris, donc, et ça a été enregistré au caveau de la Huchette en mars 2019.
Ce premier set, un grand succès du jazz, un grand succès popularisé par monsieur Benny Goodman, et pour les danseurs, mademoiselle Sorel, s'il vous plaît, en piste. En piste, sing, sing, sing.
ça donne une bonne idée de comment ça se passe, quoi,
dans l'ambiance,
de la, oui, l'ambiance voilà. du caveau de
le
la chaîne.
Le son n'est pas terrible, mais
oui, mais ça... c'est un comme il y a des danseurs et des orchestres, c'est une ambiance bien particulière. Par exemple, il y a des tempos à ne pas dépasser, parce qu'il faut que les danseurs puissent danser. Sans ça, ça vient gueuler. Hein. Il faut interdire de prendre des tempos trop rapides ou trop lents. Pour danser le rock, si c'est trop lent, c'est pas facile non plus. Donc, et puis, ce qui est marrant, c'est que Danny Doris, en fait, c'est lui qui a dirigé, puis qui dirige peut-être encore, le caveau de la Huchette et le Blue Note hein, à Paris. Et...
Depuis 1970. Hein.
Voilà. Là. Donc, bon, bah, il connaît la musique, quoi. Il peut me permettre. Et oui, avec son fils qui joue avec lui, là. Ils sont sympas. J'ai eu l'occasion de passer là-bas. Ils sont vraiment très sympas, les deux.
Alors, Danny Doris, il est vibraphoniste et c'est un ami de Lionel Hampton. Et donc, effectivement, il préside à la destinée de ce club mythique depuis 1970. Alors, le caveau de la Huchette, c'est quand même un lieu d'inspiration pour les cinéastes, puisqu'il a prêté son décor pour de nombreux films, comme Les Tricheurs de Marcel Carné, Rouge Baiser de Vera Belmont, La Première Fois de Claude Berry et le dernier film de James Huss, Un Bonheur n'arrive jamais seul, avec Sophie Marceau. Et puis, bien sûr, le film multi-oscarisé La La Land de Damien Chazelle va reprendre l'enseigne et le décor de la salle de l'orchestre du caveau de la Huchette.
Ah bah oui, c'est un décor vraiment très sympa. On est dans une cave là et tout, on serait presque au Moyen-Âge.
Ça fait très parisien.
On a peur de tomber sur une oubliette.
Alors maintenant, on va aller faire un tour au Vieux Colombier. Et là, on va écouter Marcel Zanini.
Ma baby, tu moques des roses et de toute autre chose. Ma baby ne pense qu'à moi. Ma baby se moque des bagues et bracelets. Ma baby se moque des châteaux et palais. Ma baby se moque de tout. J'en suis complètement fou. Elle est vraiment très jolie. Oui. Elle pourrait faire du cinéma. Ma baby ne pense même que moi. Des roses et de toute autre chose. Ma baby ne pense qu'à moi. Ma baby se moque des bagues et bracelets. Ma baby se moque des châteaux et palais, oui. Ma baby se moque de tout. J'en suis complètement fou. Elle est vraiment très jolie. Elle pourrait faire du cinéma, mais tout cela ne l'intéresse pas. Elle pourrait faire ça ne l'intéresse pas. Papa tout dégoûté. Baby, ma baby, ma baby n'aime que moi. Ma baby ne pense qu'à moi.
Donc, bah, Bernard Zanini, Marcel Zanini, tout le monde le connaît presque, quoi, ou l'adore. Son gros tube, c'était tu veux ou tu veux pas. Si tu veux pas, tant pis, j'en ferai pas une maladie. Ah, il est devenu célèbre à cause de ça. Mais en fait, c'est un très très grand saxophoniste de jazz, sax ténor qui joue. Il était passé au Lido une fois, je l'avais vu, j'étais tout gamin. Donc là, on a choisi le fameux Just a Gigolo de Louis Prima.
Non, c'est My Baby Just Care For Me.
Oui, c'est mais pas c'est pas, c'est le même morceau.
C'est le même morceau. Oh là là.
Donc, et on peut, donc c'est lui qui joue le saxo. Et un pianiste qui avait fait une énorme carrière en France dans les boîtes, c'était surnommé Pépé Persiani. On le reconnaît bien parce que tous, il fait ses solos en accord. C'était le premier pianiste français à oser faire ça. Faut en avoir dans la tête hein, pour faire des solos en accord. C'est pas une note, hein. C'est 3-4 notes à la fois. Bon. Bon, voilà.
Et à la batterie, c'était Sam Woodyard.
Ah bah alors là, oui, le grand batteur de chez Duke Ellington, qui a fini sa vie en France, quoi. Donc, tu es recruté un peu par tous les requins de Paris, quoi. Allez.
Et donc là, c'est pas un enregistrement, donc, comme au Vieux Colombier, mais c'est un album intitulé Saint-Germain-des-Prés. Donc,
oui,
quand même, qui se prêtait
bah oui,
tout à fait.
Parce que c'est difficile d'avoir des enregistrements.
Voilà. Alors, Marcel Zanini, ou Bernard, comme disent certains. Il est né en 1923 à Istanbul. Et il débute en 1946 dans l'orchestre de Léo Missir. Et il fonde son premier groupe au début des années 50. Alors, en 1954, il part aux États-Unis, vit à New York pendant quelques années, et où il est alors correspondant de la revue française Jazz Hot. Et il revient à Marseille en 1958. Monte une nouvelle formation et puis va revenir sur Paris. Et donc c'est Léo Missir qui va lui proposer cette fameuse chanson « Tu veux ou tu veux pas », qui est une adaptation française hein, d'un succès brésilien. Alors il va remporter un énorme succès, il va devenir célèbre avec sa petite moustache, là, son bob
Et son petit chapeau.
Et ses lunettes, voilà. Bah oui, son bob, le bob, le chapeau, voilà. Il continue cependant à jouer dans les clubs de jazz parisiens et les festivals avec son sextet. Et donc, quant au Vieux Colombier, c'est l'un des clubs les plus réputés de Saint-Germain-des-Prés, de la grande époque. Alors, il occupait une ancienne réserve de décors sous le théâtre du Vieux Colombier, dans la rue du même nom. Alors, le propriétaire des lieux, Annette Badel, était un amoureux du jazz et l'orchestre de Claude Luther se produisait au club Kentucky après un long séjour d'ailleurs l'orienté qui a été fermé par la police lorsqu'il fut débauché par Badel au début des années 49 là, pour faire l'ouverture du Vieux Colombier. Et quelques mois plus tard, le triomphe de Sidney Bechet au Festival de Paris incita Badel à engager le clarinettiste, donnant au club sa réputation définitive. Et donc chaque soir, après une introduction musicale assurée par Luther et les siens, quelques couples exécutaient des figures de jitterbug sur la piste de danse pour inviter le public à les imiter. Bon, facile quand même, hein, voilà. Alors des chanteurs débutants comme Charles Aznavour, Léo Ferré ou Georges Brassens, hein, qu'on retrouve là, passaient alors en attraction avant l'entrée en scène de la star, qui fut selon les époques Mesmerose, Sidney Bechet, Big Bill Brunzi ou encore le Hot Lips Page. Alors, pour ne pas perdre sa clientèle pendant les vacances, qui partait sur la Côte d'Azur, Annette Badel a eu l'idée de transposer son club à Antibes pendant les mois d'été en emmenant avec lui danseurs et musiciens. Et autour d'un patio, sous une fresque de Saint-Germain-des-Prés, hein, pour pas garder le décor quand même, le public estival profitait de la musique de Sidney Bechet. Et après le départ de celui-ci en 1953, le vieux colombier a poursuivi ses activités, mais quand même l'engouement du public pour Saint-Germain a fini par diminuer et le club a fermé finalement ses portes au début de la décennie suivante. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter Claude Luther et ses Lorientais. Alors non pas dans le club du même nom, le Lorientais, situé rue des Carmes, mais dans un enregistrement en live au Vieux Colombier du 23 juin 1948.
C'est vraiment sympa ce petit enregistrement de Claude Luther et nous avons eu des stop chorus par le trompettiste, ce qui est bien agréable, comme quoi les stop chorus c'est sympa.
Alors Claude Luther, alors le morceau s'intitulait Sweet Loving Man Donc Claude Luther, il est né en 1923 à Paris, il est décédé en 2006. Donc il est clarinettiste, saxophoniste soprano et chef d'orchestre. Alors dans son manuel de Saint-Germain-des-Prés, Boris Vian décrit ainsi le personnage sous une forme de fiche d'identité. Alors voilà ce que dit Boris Vian. Claude Gérald de Georges Luther, 26 ans, né à Paris, 1m84, châtain, 80 kg, pratique la clarinette depuis 1941 environ. Le plus connu en Europe des rénovateurs du style New Orleans. C'est lui qui, le premier, lança une cave, l'orientait. Il faut dire, pour être sincère et objectif, que les fillettes y venaient tout autant pour Claude et ses amis que pour la musique et la danse. Car outre ses talents de musicien, Claude Luther était un fort bel homme avec un physique de sportif et avait un amour immodéré du judo et du sport qui fait des anatomies appréciables. Donc maintenant, je ne sais plus si on pourrait décrire des choses comme ça.
Oh bah oui, quand même.
Alors, dès 1946, un Claude Luther joue à Paris au Caveau des Lorientais, puis rapidement s'impose parmi les meilleurs jazzmen européens. En 1949, il fait donc l'ouverture du Vieux Colombier. Et donc, son orchestre se compose alors de Pierre Dervaux à la trompette, Bernard Zacharias, Di Zaza au trombone, Christian Azzi au piano, Roland Bianchini à la contrebasse, François Galpide à la batterie, mieux connu sous le surnom de
Moustache.
Et donc, cette même année, il tourne dans Rendez-vous de juillet de Jacques Becker, où il accompagne Sidney Bechet au cours du Festival de Jazz de Paris en 1949. Et donc, en France, il est l'un des représentants les plus significatifs du revival du jazz New Orleans. Et en 99, il est invité pour la célébration du centenaire de la naissance de Sidney Bechet à la Nouvelle-Orléans. Son fils Eric, trompettiste, continue dans la voie de son père, hein, en se produisant très souvent lors des concerts de jazz.
Ah oui, on peut dire qu'actuellement, dans les trompettistes de jazz, c'est un des meilleurs musiciens français. Il a autant de talent que son père. Mais bon, bah, c'est plus tellement la mode, ce style-là. Alors bon, bah, il n'a pas trop de succès, mais il joue très, très, très bien, son fils.
Alors, un autre grand lieu du jazz et des soirées existentialistes, eh bien, c'est le Tabou. Donc, Cher à Boris Vian, Juliette Gréco, etc. Alors, je vous propose d'écouter tout d'abord le trio de Claude Bolling dans un enregistrement de 1959.
Thank you.
Eh ben, c'était un sacré pianiste, ouais. Monsieur G... non, Monsieur Claude Bolling.
Claude Bolling. Claude Bolling. Il va nous inventer les noms.
Donc là, bah, il est accompagné par Arthur Motta à la batterie et Gérard Badini qui joue là, qui fait ses débuts dans le jazz à clarinette en jouant du Dixieland. Mais après, Gérard Badini a suivi Claude Bolling toute sa vie et était soliste. Dans un style beaucoup plus moderne au sax ténor, dans le big band de Claude Bolling, quoi. Et il avait sa propre formation, Gérard Badini. Et il a même fini en dirigeant un big band. Puis bon, bah, lui aussi est décédé. Son fils a repris une émission de jazz sur une radio concurrente. Allez, on le dit le samedi soir et le dimanche soir. Bon, Guillaume Badini, voilà, Guillaume Badini.
C'est pas Guillaume.
Non ?
Non, je crois pas. Non. Bon. Non, ben Jean, il se mélange
il
toujours.
Il a le même accent que son papa. Il prononce à l'américaine.
Alors, on va vous parler un petit peu du tabou. Donc, alors, initialement, c'était une salle de répétition pour des comédiens, mais le tabou devient très rapidement le club de jazz le plus célèbre de Paris. Un journaliste décrit ainsi les folles ambiances du tabou au lendemain de la guerre. Alors, attention. Hein. Dans cette cave de 12 mètres sur 8, 200 danseurs au moins transpirent, agglutinés les uns aux autres comme des mouches. Tous semblent plongés dans la léthargie quand ils dansent. Mais qu'une brèche se fasse jour dans cette foule compacte, et les voilà soudain en transe. Un garçon projette sa danseuse loin de lui, puis l'attirant à nouveau d'un bras puissant, lui disloque les épaules à la grande satisfaction de celle-ci. Il dessine alors sur le sol une série de tournoiements frénétiques. La trompette et la clarinette sont braquées, hurlantes vers le plafond, qui s'écroulerait s'il n'était du XVIIe siècle. Donc, vous voyez, les chaudes ambiances. C'est vrai qu'à l'époque, c'était le jazz, c'était dansant surtout, quoi. Alors après, on voit des clubs de jazz où là, faut surtout pas danser, faut écouter cérémonieusement les musiciens.
C'est un texte de Boris Vian, ça ?
Non, c'est un journaliste qui avait écrit ça, voilà.
Je reconnaissais pas ton écriture.
Alors, mais par contre, maintenant, on va écouter Boris Vian avec ses frères Lélio et Alain, donc dans un morceau. Donc ça, c'était un enregistrement fait au tabou le 25 janvier 1958 et le morceau s'intitule « Sheikh of Arabie ».
Un, deux.
Ben c'est vraiment sympa, hein, cette famille là qui fait son petit trio et tout.
Non, là, c'est c'était... pas le meilleur trio de Paris, mais.
Mais c'est sympa. Puis ça joue quand même, hein, attention. Donc bah, Boris Vian,
la figure incontournable du Paris de Saint-Germain-des-Prés.
C'est un esprit. Il a écrit, pas mal de chansons et. Donc peut-être la plus célèbre, c'est peut-être la Java des bombes atomiques, comme mon oncle, un sacré bricoleur, faisait ton amateur des bombes atomiques. Non, c'est...
Donc il a travaillé quand même à la... pour des journaux comme Combat, Jazz Hot, Art. Et donc, il a créé aussi des émissions radiophoniques Jazz in Paris, dont les textes en anglais et en français étaient destinés à une radio new-yorkaise et dont les manuscrits ont été rassemblés dans une édition bilingue en 96. Voilà. Donc, cette petite formation avec ses frères, là, il l'a faite en 42-44, voilà. Et puis, voilà. Mais... comment il va jouer aussi il va jouer avec Claude Luther et Claude Abadie aussi dans l'orchestre voilà. Alors voilà, mais les temps vont changer petit à petit, donc plus d'existentialisme, plus de zazou et un nouveau club va ouvrir ses portes en juin 48 qui est le club Saint-Germain au 13 rue Saint-Benoît dans le 6e arrondissement. Alors, c'est un haut lieu du jazz. Son succès a entraîné la fermeture donc, du célèbre Tabou. Et l'orchestre de Boris Vian en a assuré l'ouverture musicale. Mais ensuite, il a accueilli tous les grands du jazz français et américain. Alors, il diffère du Tabou en cela que la mode zazou n'est plus appréciée dans ce lieu, devenu nettement plus élégant et plus rigoureux sur le choix de sa clientèle. Alors, on ne veut plus d'intellectuels. Des personnalités on y accueille que des intellectuels, des personnalités connues du monde des arts et lettres et du spectacle, hein, voilà,
que des gens bien quoi.
On fait une sélection dans la clientèle qui est beaucoup plus sévère qu'au Tabou, hein, dont les excès confinaient parfois à la vulgarité, hein. Alors le soir de l'inauguration il y a 300 invitations qui ont été lancées. Et il y eut, selon les estimations, entre 1000 et 1500 personnes qui se pressèrent devant la porte, bloquant la circulation sur le boulevard Saint-Germain et nécessitant le concours de la police à tous les carrefours. Voilà. Alors, je vous propose d'écouter un morceau enregistré au Club Saint-Germain en 1959, Blues in the Closet, avec le trio The Three Bosses, qui est composé de Bud Powell, Pierre Michelot et Kenny Clarke.
Quartet redevient un trio, le trio de Pierre Michelot, l'excellent contrebassiste français. Pierre a choisi pour son solo une composition écrite par un grand contrebassiste américain, Oscar Pettiford, Blues in a Closet.
Et ben magnifique petit trio, hein, donc bah, Pierre Michelot là, qui on l'entend bien, enfin il était considéré pendant je ne sais combien d'années comme le grand contrebassiste de jazz français. Hein. Et là bon bah il y a pas photo quoi. Donc bah les Kenny Clarke, il a fui les États-Unis parce que on le demandait tellement qu'il pouvait plus dormir. Jour et nuit, tous les musiciens frappaient à sa fenêtre. Viens, on va enregistrer un truc. On dit que c'est lui qui est à l'origine de la batterie bebop. Hein. Donc, et bon, bah, Bud Powell, bah, c'est le pote de Thelonious Monk, quoi. Hein. Thelonious Monk s'est fait interdire de jouer parce que Bud Powell avait un petit peu de cam dans les mains et quand ils se sont fait arrêter par les flics et Monk s'est sacrifié, il dit je la prends, puis on va dire c'est moi. Donc, Bud Powell a pu continuer à jouer. Bon, il est considéré par beaucoup d'amateurs comme le plus grand pianiste bebop. Hein. Et quand même, là, il joue, c'est à l'époque où on crée ce style, hein, ce nouveau style de jazz. Bon, bah là, il n'était pas encore devenu fou, quoi. Bon, ça a pas tardé après, mais il joue encore très, très, très bien, quoi. Très, très, très beau témoignage, hein, ça.
Donc, c'est lui aussi qui crée la bande originale du film de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud, avec Miles Davis.
Hein, bah oui, oui, Pierre Michaud. Hein,
bah oui, ils ont Kenny Clarke aussi. En direct, en regardant les images du film.
Le pianiste, c'était René Urtrigger.
Alors, le club a accueilli des musiciens de style mainstream ou modern jazz, du jazz français, et avec des artistes comme Django Reinhardt, Martial Solal, Barney Willem, ainsi que des Américains comme Lester Young, Kenny Clarke, Miles Davis, Coleman Hawkins, Art Blakey. Donc voilà, pas mal quand même.
Ah bah oui.
Alors, terminer cette première émission sur les clubs de jazz parisiens, on vous propose d'écouter un morceau du Martial Solal Big Band, donc un enregistrement qui a été fait au Club Saint-Germain le 3 novembre 1962. Et le morceau s'appelle Mystère Solal. Donc voilà, alors encore une fois, comme ce fut le cas pour le tabou, le Club Saint-Germain a été victime de son succès. Il y avait beaucoup trop de monde et au bout de quelques années, il a été pris d'assaut par des cars de tourisme qui bloquaient la rue Jacob et la rue Saint-Benoît. Alors le Club Saint-Germain va cesser de recevoir des musiciens de jazz vers le milieu des années 60. Et puis là, ils ont vu qu'ils avaient fait une grosse erreur. Et ils vont tenter un retour au jazz dans les années 80, mais sans succès. Et donc, le club va se transformer en discothèque.
Bah voilà. Oui. les meilleures choses ont une fin.
Donc,
comme l'émission d'ailleurs.
Voilà, l'émission arrive à sa fin aussi. Et mais donc, on va se retrouver la prochaine fois pour la suite voilà, de cette histoire des clubs de jazz parisiens.
Vous avez entendu l'histoire de...
Miles Davis, John Coltrane, Stan Getz.
Comment ils vécurent, comment ils sont morts.
Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore?
Eh bien, écoutez Stop Chorus et...
On vous en racontera bien plus.